Radio Okapi.
Il est 18h sur Radio Okapi, la radio de la paix. Merci de nous rejoindre pour votre journal du soir. À présent, place à l'essentiel de l'actualité, des faits vérifiés, une information fiable recueillie par nos équipes sur le terrain. Voici votre journal de 18h. Accord sanitaire RDC-USA, un partenariat de 1,2 milliard de dollars formalisé. Le mémorandum d'entente prévoit un investissement conjoint, 900 millions de dollars apportés par les États-Unis et 300 millions mobilisés par le gouvernement congolais. Inflation, système bancaire et stabilité financière. L'Afrique centrale en conclave à Kinshasa pour la réunion des gouverneurs. Les dirigeants des banques centrales de la région appellent à accélérer l'intégration économique et monétaire afin de renforcer la stabilité macroéconomique et répondre plus efficacement aux pressions inflationnistes. Entretien avec Kangoli Ngoli, plongé au cœur du quotidien des enfants de la rue. Le cofondateur du bloc citoyen Amani révèle le chiffre préoccupant de son enquête qui identifie près de 1300 enfants livrés à eux-mêmes dans les rues de Bukavu, au sud Kivu. C'est une annonce qui pourrait transformer en profondeur le paysage sanitaire en République démocratique du Congo. Un accord d'une enveloppe financière majeure vient d'être signé à Kinshasa. La première ministre Judith Suminwa a présidé jeudi à la primature la signature des mémorandums d'entente stratégique entre la RDC et les États-Unis, montant engagé 1,2 milliard de dollars. Washington apporte 900 millions, Kinshasa en mobilise 300 pour un objectif clair, renforcer durablement le système de santé congolais. Place maintenant au détail avec Jude Mister Bilanda.
Cet accord représente bien plus qu'un engagement administratif. Il exprime notre responsabilité envers nos concitoyens. Il renforce notre capacité à assurer la protection sanitaire de notre pays, a déclaré Judith Suminwa, chef du gouvernement de la RDC. Ce mémorandum permettra de renforcer la lutte contre les VIH-Sida, la tuberculose et les paludismes, d'améliorer la santé maternelle et infantile, de poursuivre l'éradication de la poliomyélite, d'intensifier la surveillance épidémiologique, de consolider les capacités du personnel de santé et de renforcer la préparation face aux urgences sanitaires. Pour Yann McCurry, représentant de l'ambassade des États-Unis, cet accord à la fois pragmatique et ambitieux marque le passage d'une assistance traditionnelle à une collaboration fondée sur la responsabilité partagée. Ensemble, nous visons à sauver des vies, à renforcer la sécurité sanitaire de nos deux nations et à bâtir un système de santé résilient et autosuffisant en RDC, a-t-il souligné. À travers cet accord, la RDC traduit la volonté de prendre pleinement en charge ses priorités sanitaires et de progresser vers la couverture santé universelle.
Dans la province de la Tchopo, la situation sanitaire se détériore à une vitesse inquiétante dans la zone de santé d'Isangi. Sur le terrain, les équipes font face à une double urgence, la rougeole d'un côté et le mpox de l'autre, deux épidémies qui progressent simultanément et qui ont déjà coûté la vie à plusieurs membres de la communauté. Les ressources se raréfient, les équipes sont à bout de souffle et les autorités sanitaires lancent un appel pressant au gouvernement central ainsi qu'aux partenaires pour éviter une catastrophe. Et pour comprendre l'ampleur de cette urgence sur le terrain, on retrouve maintenant Jacques Mukonkole qui nous livre un tableau précis de la situation dans la région.
Sur les 25 aires de santé que compte la zone, 4 sont actuellement frappées de plein fouet par la rougeole. Le bilan, depuis la première semaine épidémiologique, fait état de 80 cas enregistrés, dont un décès. Selon le docteur Charles Koyumoke, médecin chef des zones, la cible principale du virus reste la plus petite enfance.
La femme n'a pas été protégée à partir de 9 mois par rapport à notre calendrier vaccinal. Il peut contracter facilement la rougeole et développer de formes graves. qui peut l'amener même jusqu'à la mort.
En parallèle, le Mpox inquiète également les autorités. À ce jour, 23 cas ont été notifiés, dont un décès. Pour l'heure, l'épidémie semble localisée. Elle ne sévit que dans l'aire de santé de Weko, plus précisément au village Nganzi. Face à cette double menace, le MCZ demande une intervention urgente du gouvernement et de ses partenaires pour l'envoi de moyens logistiques et thérapeutiques. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Une note d'espoir malgré tout, une première réponse humanitaire commence à se mettre en place. Les équipes de MSF sont déjà sur le terrain pour identifier et confirmer les cas. Une étape cruciale qui pourrait ouvrir la voie donc à une intervention plus large. Nous restons dans la page santé avec cette nouvelle opération lancée au Maniema. Le ministère provincial de la Santé organise du samedi 28 février au dimanche 1er mars les journées locales de vaccination contre la poliomyélite, une initiative motivée par la détection de 3 cas de polio en 2026 et 5 cas supplémentaires en 2025. Avec le soutien de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite et d'autres partenaires, la campagne vise près de 691 000 enfants âgés de 0 à 59 mois. La stratégie retenue est le porte-à-porte suivi de 2 jours de ratissage pour s'assurer qu'aucun enfant n'échappe à la vaccination. Les parents sont vivement encouragés à préparer leurs enfants afin de renforcer leur immunité. Voici ce que nous rapporte Florence Kizalunga depuis le terrain. Écoutons ce reportage.
Ces activités de riposte vaccinale qui visent à interrompre ou à arrêter la circulation de la poliomyélite dans la province sont constituées d'une équipe bien formée pour cette fin, déclare Dr Faustin Bekonda, chef de division de la santé.
Pour cette campagne, 2318 équipes de vaccination et 1180 superviseurs de proximité sont déjà sur le terrain. Tous ces acteurs de mise en œuvre pour cette campagne devront mettre en application les mesures barrières afin de limiter la propagation des Mpox, des maladies à virus, Ebola et le choléra.
Les partenaires qui se tiennent aux côtés du gouvernement pour la réalisation de cette mission appellent à la responsabilité des intervenants et des parents.
Aux acteurs de terrain, les agents de santé, des volontaires, tous, nous vous félicitons et encourageons pour votre professionnalisme et vous exhortons à plus d'abnégation au travail tout au long de ce passage de vaccination contre la poliomyélite. Aux parents et aux leaders communautaires surtout, je vous encourage à mobiliser et à rassurer les familles afin d'adhérer massivement aux activités qui seront déployées.
Pendant cette campagne, il sera aussi question d'enregistrer tous les enfants qui sont en conflit avec les calendriers vaccinaux afin qu'ils complètent leur calendrier. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
On continue toujours avec vous sur Radio Kapi et l'on change complètement de registre pour s'intéresser cette fois aux enjeux économiques de la sous-région. La maîtrise de l'inflation, la soutenabilité des finances publiques et la stabilité du système bancaire, ce sont des principaux sujets abordés lors de la réunion des gouverneurs des banques centrales d'Afrique centrale. Ces assises organisées ce vendredi 27 février à Kinshasa sous l'égide de la Banque centrale du Congo s'inscrivent dans le cadre de travaux de l'Association des banques centrales africaines. En clôturant les échanges, le gouverneur de la BCC, André Wameso, par ailleurs président en exercice du comité sous-régional Afrique centrale, a rappelé que l'intégration économique et monétaire demeure un levier décisif pour transformer durablement les économies de la région. Les explications à présent avec Grace Amzati.
Selon une dépêche de la BCC parvenue à Radio Kapi ce vendredi, cette rencontre a été précédée par 2 jours de travaux des experts qui ont évalué la mise en œuvre des décisions de la 47e réunion ordinaire du Conseil des gouverneurs au niveau de la sous-région Afrique centrale. Ils ont examiné la mise en œuvre du programme de coopération monétaire en Afrique centrale ainsi que l'état des lieux du programme d'harmonisation du cadre de la politique monétaire au sein de la sous-région. Selon la même source, les délégations de la Banque des États de l'Afrique centrale, de la Banque centrale de Sao Tomé et Principe ainsi que de la Banque centrale du Congo ont procédé à une appréciation rigoureuse des avancées réalisées dans le cadre du programme de coopération monétaire en Afrique centrale. Les échanges ont porté sur les niveaux de convergence des indicateurs macroéconomiques, la coordination des politiques monétaires et le renforcement des mécanismes de surveillance financière et régionale. Il est à noter que les gouverneurs des banques centrales ont réaffirmé leur engagement à poursuivre l'alignement progressif des instruments de politique monétaire et des dispositifs de supervision financière. Les gouverneurs ont par ailleurs arrêté les thématiques prioritaires du séminaire continental et du symposium des gouverneurs prévu en 2026, en rapport notamment avec la stabilité financière à l'ère de la digitalisation, l'inclusion financière et l'innovation technologique, l'intégration monétaire africaine et la consolidation de la souveraineté financière du continent.
Ces assises de Kinshasa constituent une étape clé dans le renforcement de la coopération entre les banques centrales d'Afrique centrale. Elles témoignent d'une volonté commune de bâtir une architecture monétaire régionale plus stable, mieux coordonnée et résolument tournée vers le développement. Direction le Haut-Katanga où le président du Sénat, Samalou Kondé, s'est rendu sur le terrain pour prendre le pouls du projet Kasomeno Kasenga Tchalwe. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le patron de la Chambre haute s'est dit satisfait de l'allure de travaux. En visite ce jeudi 26 février sur ces chantiers pilotés par l'Agence congolaise de grands travaux, Samalou Kondé a pu constater l'avancement de plusieurs ouvrages clés. La réfection du pont Obané jeté sur la rivière Loapula, mais aussi la progression du revêtement routier avec déjà la pose de la couche de base en cours. Plus de détails dans ce papier signé Blaise Ndongala Mayanda.
En vacances parlementaires dans le Haut-Katanga, le président du Sénat a visité la route Kasomeno-Kasenga-Chwale, une nouvelle voie transfrontalière qui reliera bientôt la RDC à la Zambie. Sous la conduite du directeur provincial de la CGT Katanga et avec la collaboration des concessionnaires GED Congo ainsi que des sous-traitants CCSC, Rankin et Kairos qui suivent au quotidien l'évolution du chantier, Samalou Kondé a noté que le projet est dans une phase de développement prometteuse. Le numéro 1 de la Chambre haute du Parlement a tour à tour visité les pont Oubané, la base vie des équipes techniques chinoises, puis les 10 km de route actuellement en cours de revêtement avec la couche de base. C'est avec assurance et satisfaction qu'il s'est adressé à la presse saluant l'engagement de toutes les parties impliquées dans ces projets. La route Kasomeno-Kasenga-Chwale permettra de réduire de 250 km les trajets des camionneurs se rendant à Dar es Salaam par rapport au passage de Kasumbalesa. Toutes les équipes sont à pied d'œuvre pour permettre une livraison du projet en mai 2027.
À Bounia, le message porté par le président de l'Assemblée nationale est clair. Faire face à l'agression, protéger les populations et accélérer le chantier de développement. En visite express ce vendredi dans la capitale provinciale de l'Ituri, Aimé Boji Sangara a parcouru plusieurs infrastructures financées par le gouvernement, routes urbaines, aéroports, universités, et s'est montré encouragé par l'avancement de travaux sur les tarmacs de l'aéroport de Bounia. Il s'est exprimé devant la presse. Jean-Claude Lokidile en a retenu cet extrait.
Je suis agréablement surpris. C'est pas la première fois que j'arrive ici à Bounia, mais cette fois-ci, j'ai atterri sur une piste exceptionnellement bien faite. Je n'ai pas senti la différence avec des pistes d'autres pays développées ou des pays asiatiques. Ça reflète l'optimisme qui est le nôtre. Cela démontre que le Congo, c'est un pays qui sait rester debout malgré les difficultés. Le peuple congolais est résilient et tous derrière le président de la République, nous sommes convaincus que nous allons vaincre le combat du rétablissement de la paix et celui du développement. C'est ce que cet aéroport symbolise au fait, les deux ensemble. Nous sommes en pleine zone opérationnelle, mais en même temps nous avons une belle œuvre aux normes internationales qui est accomplie et qui va amener, contribuer au développement de tout cet espace. C'est extraordinaire. Et je viens du Nord Kivu, c'est pareil, ils sont en pleine construction d'un aéroport et de plusieurs chantiers au niveau de routes urbaines.
Au Kasaï oriental, un pas important vient d'être franchi dans la modernisation des infrastructures routières. L'entreprise Safrimex a officiellement remis ce jeudi 35 km de voirie urbaine entièrement réhabilitée à Mbujimayi, des routes asphaltées, marquées au sol et désormais éclairées, livrées après 36 mois de travaux et réceptionnées par l'Office de voirie et drainage, l'OVD. Un procès verbal de réception a été signé entre Safrimex et SARS
Israël, le 5 missions de contrôle, le chef de division de travaux publics et infrastructures, ainsi que le représentant du gouvernement provincial pour l'ingénieur Freddy Mboma, directeur du département technique de l'OVD, maître d'ouvrage. La satisfaction est totale. Les travaux ont été réalisés conformément aux exigences du contrat, tant en quantité qu'en qualité. Ingénieur Freddy Mboma s'exprime au micro d'Esterne de la Fina.
Les premières impressions que nous avons, c'est vraiment un satisfait parce que les ouvrages que nous livre aujourd'hui l'entreprise Safrimex, sous l'accompagnement de toutes les missions de contrôle ainsi que de notre direction provinciale, ont répondu à toutes les sollicitations et nous disons merci pour ces ouvrages de qualité. C'est une œuvre humaine, il n'y a pas de perfection. On a vu avec l'inspection visuelle qu'il y a quelques points qui nécessitent qu'une attention soit soutenue de manière à ce qu'on améliore pour donner encore un bon résultat. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce sont des formalités administratives. Dès que le prononcé est fait, ça veut dire que l'entreprise se décharge de la responsabilité momentanée de ses ouvrages. Il va falloir que l'OVD puisse prendre le relais pour pouvoir inscrire ce projet dans les travaux avec le programme du Fonds national d'entretien routier.
À Kinshasa, les voix du monde politique, médiatique et citoyen se sont élevées pour alerter. La liberté d'expression recule et exercer le métier de journaliste devient de plus en plus dangereux en période de guerre en RDC. Réunis ce vendredi 27 février, les participants ont dressé un état des lieux sans concession, pointant une réalité brutale pour les professionnels de l'information. Organisée par la dynamique des politologues de la RDC, DIPOL, en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert, cet atelier a mis en lumière les multiples obstacles qui entravent la presse, violences directes, menaces, intimidations, mais aussi formes de censure, qu'elles viennent des autorités ou des groupes armés dans les zones de conflit. Un espace d'échange jugé indispensable alors que les conditions de travail des journalistes se détériorent sur plusieurs fronts. Reportage signé Blaise Shindani Kambala, rendu par Vanessa Nkongolo.
Dans le contexte de la guerre en RDC, la dynamique de politologues d'IPOL, en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert, ont réuni politologues, journalistes et organisations de la société civile pour réfléchir à l'équilibre entre liberté d'expression et impératif de sécurité. Christian Dobomoleka, coordonnateur de DIPOL.
Dans un contexte qui est très critique et tout le monde connaît dans l'environnement dans lequel nous vivons, et particulièrement comment dans ce contexte-là, autant on travaille à maintenir l'espace démocratique ouvert dans un environnement très porté par tout sécuritaire, mais comment en même temps, on responsabilise chaque partie, que ce soit l'État, les citoyens, les journalistes, les activistes, parce qu'il y a une responsabilité dans la prise de parole. Quand on prend la parole, il y a derrière une responsabilité dans ce que l'on dit, mais il y a également une responsabilité publique dans la protection de l'environnement.
À l'issue de cet atelier, le journaliste Marc Gardédien a souligné les rôles clés de la culture dans l'exercice de la liberté d'expression en RDC.
La culture aujourd'hui est tout autant importante. Ce qui justifie les faiblesses dans les résultats, c'est qu'on veut imposer une liberté d'expression, mais dans la liberté d'expression, la finalité, c'est d'avoir un débat public de qualité. Or, il faut commencer par veiller sur la qualité. Dès lors qu'on sait que les contenus sont de qualité, la liberté va de soi.
Notons que tous les intervenants ont rappelé les lois garantissant cette liberté, mais ont aussi identifié plusieurs défis, notamment les violences et menaces envers le professionnel de médias, censure étatique ou exercice par le groupe rebelle, désinformation massive et restrictions légales justifiées par la sécurité nationale.
Actualité internationale.
La Russie a fermement condamné ce samedi 28 février les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, qualifiant l'offensive d'aventure dangereuse, susceptible de plonger le Moyen-Orient dans une catastrophe humanitaire, économique et potentiellement radiologique. Selon Moscou, ces attaques auraient pour objectif de détruire le gouvernement iranien en raison de son refus de se plier aux dictats de Washington et de Tel Aviv. Dans le même temps, le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis menaient désormais des opérations de combat majeures contre l'Iran en soutien à l'offensive israélienne. Face à ces frappes, l'Iran a immédiatement riposté. Téhéran a lancé des missiles contre Israël, mais aussi contre de nombreuses villes du Moyen-Orient abritant des bases militaires américaines. Pour Moscou, les frappes occidentales risquent désormais d'entraîner une spirale incontrôlable de violence, tandis que de nombreux pays et organisations internationales appellent à une désescalade immédiate.
L'invité.
Et place maintenant à l'invité de ce journal. Nous recevons Kango Lingoli, l'un des fondateurs d'une ASBL qui s'engage sur un dossier particulièrement sensible, la situation des enfants vivant dans les rues de Bukavu. Selon le mouvement qu'il coordonne, Bloc Citoyen Amani, près de 1300 enfants seraient aujourd'hui livrés à eux-mêmes dans les artères de la ville. Kango Lingoli revient donc sur les conclusions de son enquête et en détaille les enjeux dans cet entretien accordé à Jean Kassami.
Bonjour, monsieur le responsable du Bloc Citoyen Amani.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous venez de mener des enquêtes sur la situation des enfants de la rue à Bukavu. Combien sont ces enfants que vous avez pu identifier?
C'est un plaisir pour moi d'étaler la situation des enfants se trouvant dans la rue de Bukavu, communément appelée les enfants de la rue. Nos enquêtes menées relèvent qu'il y a 13 000 enfants se trouvant dans la rue de Bukavu, dont 650 enfants en situation de détresse et risque d'attraper la folie.
Et dans quelle partie sont-ils localisés?
Beaucoup de ces enfants-là se trouvaient dans la commune d'Ibanda. Un nombre important se trouve dans le marché du Nyawera. D'autres se trouvent à Major Vangu. Mais il y a aussi un grand nombre d'enfants qui se trouvaient à Machinj dans la commune de Kadout. Et donc, la majorité de ces enfants vraiment se trouvent à Machinj. D'autres se trouvent à Nyawera et d'autres se trouvent à l'endroit appelé Major Vangu. Sont là les trois points chauds où se trouvent ces enfants-là de la rue.
Souvent, les centres de réinsertion se plaignent de recevoir ces enfants et au bout d'un certain temps, les mêmes enfants redisparaissent. Qu'est-ce qu'il faudrait, à votre avis, pour que ces enfants soient pleinement intégrés et qu'ils apprennent les métiers auxquels le centre leur prédispose au lieu de chercher à revenir dans la rue?
Il est trop aberrant de s'attaquer aux effets sans pour autant s'attaquer aux causes. Ces enfants se sont retrouvés dans cette situation suite aux causes suivantes. Il y a d'abord la pauvreté des parents, il y a aussi l'accusation d'une manière abusive et force de ces enfants de la sorcellerie, ce qui est contraire à l'article 44 de la Constitution, parce que cet article-là stipule qu'aucun enfant ne peut être accusé de la sorcellerie. Alors, même si ces organisations s'adonnent de réinsérer ces enfants, de leur apprendre certains métiers, après un certain temps, ces enfants-là peuvent être retournés dans leur famille biologique, mais après le résultat de nos enquêtes, nous avions constaté qu'il y a au moins 700 de ces enfants là-bas qui étaient accusés de la sorcellerie. Et même si on les renvoyait dans la famille là n'allait pas accepter que ces enfants là puissent revenir avec cette fausse image, cette fausse idée d'imputer faussement la sorcellerie à ces enfants. Et c'est pour cela que nous alertons fortement les organisations qui milite pour les droits des enfants, de faire quelque chose de plus urgent pour que ces enfants-là puissent être considérés comme tant d'autres enfants. Le résultat aussi relève que si rien n'est fait dans l'urgence, nous risquons de doubler ce nombre-là d'ici la fin du mois de juin. Parce que ces enfants sont de plus en plus susceptibles à des exploitations sexuelles. Au moins 600 de ces enfants là-bas sont devenus mères et ces enfants sont âgés de 14 à 16 ans. Imaginez-vous un enfant de 14 ans qui est déjà mère ou parent, c'est compliqué. Alors, c'est un danger déjà pour la société et d'autres se sont livrés dans des pratiques de prise de boissons fortement alcoolisées. Il y a aussi d'autres qui se tournent vers la délinquance. Ils sont devenus voleurs et d'autres sont tués et d'autres connaissent des accidents de circulation parce que surtout dans des airs vespérales, les enfants là se mettent dans la rue en train de voler et certains d'entre eux sont frappés jusqu'à la mort, d'autres sont frappés et ils sont échappés de justesse et avec tout ça ce sont de vies humaines qui sont en train d'être sacrifiées, abandonnées à leur triste sort, messieurs les journalistes, j'ai dit.
C'était Kangoli Ngoli, cofondateur du mouvement Bloc Citoyen Amani, qui nous parlait de la situation préoccupante des enfants vivant dans les rues de Bukavu. Une enquête qui fait état de 1300 mineurs livrés à eux-mêmes dans la ville. L'entretien a été conduit par Jean Kassami. Merci d'avoir suivi votre journal des 18h sur Radio Okapi, toujours au service d'une information fiable et sereine. À la mise en onde, André Mungu Hebaye, à la coordination Jude Mystère Bilanda, présentation Gisèle Cage. Vous pouvez réécouter ce journal en podcast à tout moment. Et pour des informations encore plus détaillées, inclusives et enrichies, rendez-vous sur nos plateformes numériques ainsi que sur notre site web. Très belle soirée à vous, en compagnie de Radio Okapi, la radio de la paix.